Donc, la question la plus importante à se poser est la suivante. Comment un commerce en ligne peut-il augmenter ses ventes, son trafic et son taux de conversion? Eh bien, qui dit question dit également réponse. À chaque mardi, vous aurez donc la chance d'entendre des experts d'un peu partout du milieu francophone. Abonnez-vous, prenez des notes et soyez attentifs. Bienvenue à tous au podcast Commerce Élite. Donc, on est de retour au volet discussion du podcast Commerce Élite. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné de notre directrice de la création chez Pure Commerce, également chez notre entreprise sœur J7 Media, Antonia Racoteau. Antonia, comment ça va aujourd'hui?
Eh bien, ça va très bien. Contente de refaire un podcast. Ça fait un petit bout de temps, donc c'est top.
Effectivement, on était dans les opérations des gros mandats qu'on a avec nos clients, mais là, on s'est dit on doit ramener les gens de Pureco sur le podcast. Et aujourd'hui, on va parler de vidéo parce que c'est une de tes forces. Tu viens de l'environnement vidéo, Antonia, mixé à tout ce que tu amènes également chez J7 dans les autres départements créatifs. Ça donne une bonne vision de ce qui fonctionne bien en ce moment pour des boutiques en ligne. Et je pense aujourd'hui que 5 concepts, 5 approches vidéo qui pourraient aider les directeurs marketing, les propriétaires de boutiques en ligne à aller chercher encore plus de ventes là, avec leurs investissements en pub.
C'est vraiment ça. On va parler des bonnes pratiques pour bien démarrer l'année. Ça va être un petit peu important de pouvoir passer en revue ces 5 bonnes pratiques. Et puis surtout, bah, même si on est déjà en février, nous, on a déjà pu tester tout ça sur le mois de janvier et ça a été concluant. Donc, on est là pour les partager.
Bon, ben, fantastique. Et là, moi, j'ai la chance de voir tes notes un peu. Donc, la première, la publicité vocale. Dis-nous un peu qu'est-ce qu'on veut dire par ça pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui.
Yes. Alors, l'idée, c'est vraiment de mettre l'accent sur le son, sur l'expérience audio. Par exemple, pour être un peu plus dans le concret, on avait le concept très performant des conversations écrites par messagerie instantanée. Donc, simplement un peu une capture où on voit les messages défiler. Ça a été vraiment une publicité qui a incroyablement marché en e-commerce sur l'année 2022-2023. Et maintenant, on essaye le même concept, mais cette fois-ci avec des conversations par message audio sans utilisation de sous-titres. Assez fou que moi, je dise de ne pas sous-titrer une publicité où on entend du son. Mais pourquoi? C'est tout simplement parce que avec le fait de lire l'audio et donc d'avoir ce petit impact où on appuie sur le bouton, etc., les personnes vont directement s'identifier à l'interface numérique qui est utilisée et donc vont vouloir écouter ce qui se passe. On va pouvoir ajouter une petite tagline pour contextualiser le tout, mais vraiment l'idée, c'est de se dire, on va écouter ce qui s'y passe.
Oh wow! J'adore l'idée. Ça, on a testé ça surtout dans des formats fils d'actualité. Est-ce que tu sens qu'on doit changer un petit peu, qu'on est plus en format story? Parce qu'il y a souvent cette dynamique-là qui s'installe au niveau de garder ou ne pas garder le son selon le format de diffusion.
Je pense que en termes de placement publicitaire, c'est surtout en stories que ça va être intéressant parce que justement, le son est déjà activé. Donc, il n'y aura pas un petit peu ce côté-là où il va falloir redemander une autre étape. Mais dans tous les cas, la curiosité de l'utilisateur va être utilisée lors du format feed si on le fait de cette manière-là parce que justement, il reconnaît l'interface. Donc, il va instinctivement pouvoir activer le son.
Intéressant, j'adore l'idée. Et ça, on l'a testé plusieurs fois depuis le début de l'année.
Exactement, on l'a testé sur 2 comptes et on a déjà eu des bons résultats. Après, voilà, c'est comme d'habitude et c'est comme ce qu'on fait chez J7 et chez Pure Commerce. Le testing, c'est la santé. Donc, on va regarder vraiment au fur et à mesure comment ça prend et sur les différents types de commerce où c'est utilisé parce que ça ne peut pas forcément fonctionner avec tous les comptes. Mais justement, toujours dans cette idée de publicité vocale, on a d'autres alternatives. Par exemple, on va utiliser nos images fixes, nos publicités en images fixes, et on va les exporter au format vidéo en utilisant une voix off ou une musique. Donc, quand la personne va regarder la publicité, ce sera sa publicité image fixe habituelle. Mais pour les personnes qui auront activé le son, eh ben, il y aura une expérience supplémentaire qui va être utilisée. Et ça, c'est un petit peu du testing qu'on fait et qui fait écho à la fonctionnalité Instagram. On peut simplement ajouter une musique sur un post photo. Donc, nous, on s'inspire un petit peu au fur et à mesure de ce que les plateformes proposent. Comme ça, on est certain d'un petit peu taper dans le mille.
J'adore ça. Bon, deuxième point, le mot de l'heure que tout le monde utilise, l'intelligence artificielle, l'IA. On commence à intégrer un petit peu ces éléments-là. Bon, on commence. Ça fait un bon bout de temps déjà, mais je pense que là, tu as peut-être même des cas pratiques où est-ce que tu pourrais partager avec l'audience comme quoi que ça a été utilisé ici.
Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'IA, c'est vraiment une belle innovation, mais c'est quelque chose aussi où il faut apprendre à travailler avec pour ne pas tomber un petit peu dans tout ce qui est uniformisation, mauvaises habitudes, etc. Donc nous, à l'heure actuelle, on l'utilisait énormément justement pour générer les sous-titres. Donc efficacement, parce que écrire les sous-titres, les animer, etc., ça peut être très vite chronophage. Et donc nous, on faisait ça automatiquement avec l'IA, avec une personnalisation qu'on demandait à l'IA et un contrôle qualité, bien évidemment, toujours de la part de nos rédacteurs. On n'oublie pas que l'intelligence artificielle n'est pas infaillible. Donc, il faut toujours un petit œil humain pour vérifier que tout se passe bien. Et puis ça, c'était au début. Donc, on voulait avancer gentiment. Et maintenant, on se dit qu'on va pouvoir l'utiliser pour générer du contenu image vidéo. Donc, pour ne pas avoir des problèmes de droit d'auteur, parce que l'intelligence artificielle est forcément nourrie par quelque chose, généralement c'est par des œuvres qui sont humaines. Donc nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est qu'on va customiser les propositions faites par l'intelligence artificielle sans pour autant faire du plagiat, et notamment pour pouvoir générer des backgrounds, donc des fonds, derrière les faces caméra. Parce que on sait que les faces caméra, que ce soit le fondateur de l'entreprise ou simplement un client, bah ça peut être un petit peu plat, poche comme on dit au Québec. Celle-là, je l'ai. Et donc, du coup, on s'est dit, bah, pourquoi pas générer des fonds derrière les faces caméra. Donc, on va commencer vraiment à l'utiliser d'abord pour les décors, plus que pour la conception en tant que telle. Ça va être vraiment important d'y aller pas à pas. Et puis aussi de se différencier de ce qu'on peut trouver sur le marché, tout simplement. Et petite innovation, mais ça, je pense que t'es forcément au courant parce que Monsieur LinkedIn le sait forcément. Facebook va bientôt proposer un outil qui va être capable de signaler automatiquement les contenus générés ou altérés. Important le côté altéré par l'IA, que ce soit sur Facebook, Instagram ou autre de ces plateformes. Donc c'est pas encore en ligne, mais ça va aussi nous permettre, nous, de travailler avec des degrés différents de l'intelligence artificielle, parce que vu que ça va être notifié, ça va être important pour nous de pas décrédibiliser les marques et non plus de ne pas décrédibiliser aussi le travail de notre équipe, tout simplement.
J'adore ça. Je pense que bientôt, Antonin, on devra faire un épisode ensemble sur la nouvelle qui est sortie avec ChatGPT, OpenAI, Sora, assez exceptionnel, où est-ce qu'on a simplement à faire un prompt et un contenu vidéo va nous être donné. Bon, c'est pas encore disponible à tous, mais juste de voir l'impact que ça peut avoir, je pense que ça va pouvoir grandement intéresser nos auditeurs. Mais bon, je reviens à tes points. Pendant très longtemps, ça fait dire, faut des publicités courtes, 5, 7, 8, 10, 12 secondes, mais là, j'ai l'impression que chez Purco et J7, en ce moment, on teste de plus en plus des publicités longues. Peut-être que tu pourrais nous en dire un peu plus.
C'est exactement ça. On avait tendance à vraiment dynamiser le contenu, donc on faisait beaucoup de coupures, etc. Et là, on va aller sur un montage qui va être un peu plus léger, notamment quand ça va être des vidéos incarnées par une personne. On va pas tout le temps mettre plein de zoom, plein de cuts, etc. Tout simplement pour avoir la parole un peu plus longue, un peu plus libérée et apporter encore plus ce contenu authentique. Moins c'est coupé, forcément, moins on va se dire que la personne a préparé son propos. Aussi, ça va être intéressant parce qu'on va avoir plus de temps pour l'explication des produits, pour de la démonstration, de l'éducation, et pourquoi pas même tout ça à la fois. Au lieu d'avoir des publicités où on séquente à chaque fois chaque information, bah là, on pourra vraiment les multiplier et ça va être vraiment intéressant. Et Instagram va aussi dans ce sens pour les publicités plus longues parce que ça va bientôt être disponible dans beaucoup de pays, mais Facebook, enfin Meta de manière globale, mais là ça va être surtout sur Instagram avec les Reels, ils vont transformer les carousels images automatiquement en vidéo pour tout ce qui est placement publicitaire automatique. Donc on se rappelle le carousel images, c'est 2 à 10 images qu'on met les unes après les autres, etc. Et en fait, Instagram va simplement resizer, donc remettre au bon format les visuels utilisés. Donc, qu'il soit carré, 9/16 ou quoi, dans tous les cas, on aura un beau format vertical et Instagram va automatiquement générer une vidéo. Donc là, on sait tout de suite que le temps va varier en fonction de la longueur du carrousel. Mais encore une fois, on est dans cette pratique où on veut des publicités plus longues. Et ça, bah, on le fait chez J7 et chez Pure Commerce. C'est important.
Et je pense que ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la conversion qu'on peut avoir, comme Anthony le mentionne, avec des publicités un petit peu plus longues, ça donne également la capacité des organisations de pouvoir bâtir des audiences. Donc, on se rappelle, quand on cible les gens sur les médias sociaux et qu'ils écoutent une certaine partie de nos vidéos, on peut les pixeliser, là, entre parenthèses, ici, c'est-à-dire les recibler avec des contenus dans le futur. Donc, bâtir des contenus plus longs, au-delà de générer de la conversion, peut vous aider à entretenir une audience, présenter vos produits à des gens qui ne vous connaissent pas, les amener dans votre écosystème et par la suite, bien entendu, des initiatives pourront s'en suivre pour essayer de convertir davantage ces gens-là. Donc, je pense que c'est un point très, très important à garder en tête. Et je continue. On a parlé, je sais pas combien de fois sur le podcast, Antonia, de UGC, mais là, le terme va changer, ou du moins la première lettre, là.
C'est ça, on va parler du FGC, donc Founder Generated Content. En français, c'est contenu généré par le fondateur. Le UGC, c'était le User Generated Content, donc contenu généré par l'utilisateur. Et le FGC, donc avoir un membre de l'entreprise ou le fondateur d'une entreprise qui prend la parole pour créer de la publicité, eh bien, ça fonctionne. Pourquoi ça fonctionne? Parce que on a une petite perte de confiance envers les utilisateurs, comme ça a été la grosse tendance ces dernières années. Donc, c'est pas que ça n'a plus sa place, mais forcément, les tendances évoluent. Et donc, là, on se tourne un peu plus vers le fondateur. Donc, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir dans un environnement corporatif, finalement, de la démonstration de produits, on va pouvoir montrer la manufacture, le processus de création, de développement, et tout ça vraiment dans cet effet contexte d'entreprise, on voit le background, on voit les enjeux, etc. Et vraiment, je reviens sur le mot enjeu, c'est ce qu'il y a de plus apprécié de la part des audiences. Les gens aiment bien avoir un peu les problématiques qu'une entreprise peut rencontrer justement quand elle part sur un nouveau produit ou qu'elle continue de développer son produit. Et donc, bah forcément, on a tendance à avoir une bonne rétention de l'audience à ce niveau-là. Donc, en publicité, c'est vraiment le top. Et puis, le FGC, c'est aussi un moyen d'apporter une forme de compassion envers une entreprise, de voir les dessous de l'industrie plus facilement et aussi d'humaniser la marque. C'était déjà une pratique qu'on utilisait précédemment, mais on avait tendance à se concentrer sur les utilisateurs. Donc là, on a un petit peu ce côté où c'est le moment du fondateur de briller. Et puis, c'est un petit peu un côté admiratif, on ne va pas se mentir, dans un contexte où il y a certaines industries qui sont économiquement un peu plus en difficulté, et ben on est quand même assez admiratif de voir des entreprises continuer à se lancer dans l'entrepreneuriat et dans leur commerce en ligne.
Et je serais curieux de t'entendre ici, quand on parle de FGC, habituellement, est-ce qu'on voit simplement le fondateur parler d'un concept en particulier ou on va le voir très souvent orienté avec des produits, faire de la démonstration de produits? Est-ce que essentiellement le fondateur ne fait que remplacer l'utilisateur normal ou on veut qu'il ait un script, une approche un peu différente que ce qu'on peut voir d'un influenceur ou d'un créateur de contenu plus traditionnel?
C'est un petit peu les deux, mais là où c'est vraiment intéressant, c'est que le fondateur, il a déjà la connaissance parfaite de sa marque. Donc, on est un petit peu moins sur le côté scripté parce qu'il va connaître ses mots-clés. Et ce qui va être intéressant, c'est de l'avoir, oui, face caméra, un peu classique, où il va parler de lui-même, mais s'il y a un format un peu plus immersif, où il nous montre le produit, on voit des images, finalement, dont on n'aurait pas accès si on était un simple utilisateur, c'est là où on va avoir une véritable plus-value.
Très intéressant. Donc, pour les gens qui nous écoutent, boutique en ligne et qui veulent continuer à faire grandir leur commerce électronique, et s'il y a des fondateurs qui nous écoutent, là, c'est le temps de vous voir devant la caméra, c'est le temps de faire du contenu. En 2024, un président d'entreprise ou une présidente d'entreprise, son rôle, c'est d'être le cheerleader de cette organisation-là. On doit vous voir, faut pas se cacher derrière vos finances, derrière vos opérations. On doit vous voir, que ça soit à l'audio, que ça soit en vidéo, ça va pouvoir faire bénéficier votre organisation. Peut-être un dernier point, dernier contenu que tu vois assez fonctionnel. On parle de motion, on parle d'animation. Donc là, qu'est-ce qui se déroule un petit peu ici? Des contenus qu'on voyait peut-être un petit peu plus performants dans le passé revoient le jour et génèrent des bons résultats?
Exactement, j'appelle ça un petit peu le retour aux traditions. On va être dans des publicités qui ont un design beaucoup plus assumé. Avant, on essayait de se fondre un petit peu dans le feed. Justement, c'est pour ça que le UGC performait si bien, parce qu'on voulait pas se faire scroller. Donc, on avait ce contenu qui était très organique en termes de design. Et là, on recommence à aller sur de la publicité. Je vais dire des mots qui sont un petit peu larges, mais agressive, très assumée, on va voir que c'est de la publicité au premier coup d'œil. Et tout ça, pourquoi? Parce que on a un petit peu ce retour aux animations et aux moyennes grosses productions. C'est un peu ce qu'on retrouve actuellement sur YouTube, on va parler tout simplement d'une autre plateforme vidéo, où le contenu vidéo, qui ressemble de plus en plus à des programmes télévisés. On assume 100% la superproduction et le contenu organique, le contenu plus simple, a toujours sa place. Donc, c'est là où ça va être important d'avoir ce même équilibre-là dans nos publicités sur Meta.
Quelle est ta vision pour la suite, pour ces fameux contenus peut-être un petit peu moins travaillés? Parce que soyons honnêtes, je pense qu'il y a eu un peu une effervescence dans les 5-6 dernières années des créateurs de contenu qui, avec du matériel très limité, pouvaient faire du contenu, étaient intéressants pour l'audience. Mais plus que le temps avançait, plus que ces contenus-là ont été démocratisés, plus la barrière à l'entrée est devenue élevée, la qualité du format a considérablement augmenté et j'ai l'impression que le standard du consommateur augmente aussi. Ce qu'on s'attend de YouTube en 2024 n'est pas nécessairement ce qu'on s'attendait de YouTube en 2000 et en 2020, disons, et la même chose un petit peu sur Meta. Quel est ton instinct, ta vision un petit peu pour la suite des choses par rapport à cette dynamique-là?
Bien, je me dis que vu qu'on a une accessibilité à du matériel qui fait aussi de très belles vidéos, etc., à l'heure d'aujourd'hui, je me dis que le contenu organique, je suis un petit peu mitigée. C'est-à-dire que oui, il faut continuer à le tester et il y a que ça qui va pouvoir nous dire si ça continue de fonctionner ou non. Mais j'ai un petit peu l'impression qu'il y a cette forme de déclin parce que tout le monde a cette possibilité justement de créer du contenu un peu plus qualitatif. Donc il va vraiment falloir redoubler de conception et de créativité pour pouvoir se démarquer. Je pense que les personnes, les créateurs de contenu et même les influenceurs avec qui on peut collaborer au quotidien vont être vraiment intéressants s'ils ont cette... Vraiment, on va parler de personnalité. S'ils ont cette personnalité qui vont les démarquer parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus la qualité de leur contenu visuellement parlant qui vont avoir un impact, mais bien leur plus-value en termes d'identité personnelle.
Excessivement intéressant. Antonia, je te remercie beaucoup. On va te revoir bientôt sur le podcast. On t'avait manqué. Est-ce que tu as des choses à rajouter avant que je te laisse filer?
Eh bien, simplement que ces pratiques, toutes les pratiques que j'ai nommées là, évoluent avec les fonctionnalités qui sont mises en avant sur les réseaux sociaux. À chaque fois, je faisais un petit clin d'œil à YouTube, à Instagram, etc. Et la rotation des tendances, donc on ne réinvente pas la roue, ça c'est certain, mais on se tient constamment à jour pour intégrer des conceptions optimisées pour nos publicités. Donc, veille des tendances, organisation, testing, et après on est bon.
J'adore ça. Antonia, merci beaucoup. Je suis convaincu que les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui vont utiliser les 5 concepts vidéo et, si possible, les intégrer dans votre organisation. Si ça vous a aidé, venez nous écrire un petit peu sur LinkedIn, envoyez-nous des messages. Toujours plaisant pour nous de savoir que les conseils qu'on donne peuvent avoir un impact sur vous. Antonia, encore une fois, je te remercie. Et pour les gens qui nous écoutent, eh bien, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Commercer.